Vous écoutez France Musique.
Aujourd'hui, quelques ténors velus avec Jean-Michel Proust. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 110e émission du Matin des musiciens jazz du mardi. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une lignée de saxophonistes que l'on désigne souvent sous l'appellation de ténors velus. On parle aussi des Texas Tenors. Un certain nombre d'entre eux sont originaires du Texas. Tout commence en 1942 lorsqu'un trublion de 19 ans, il s'appelle Illinois Jacquet, grave un solo tout feu tout flamme au sein de l'orchestre de Lyle Hampton. Sans doute stimulé par l'utilisation du registre suraigu et par la pratique des modes de jeu les plus sauvages, le succès de ce Flying Home sera phénoménal et entraînera une foule de suiveurs. Et pourtant, le style viril de Jacquet n'était pas apparu ex nihilo sur la planète jazz. Le son subtone et le growl de Coleman Hawkins, l'appui sur le contretemps chez Chuberry, les joutes entre Herschel Evans et Lester Young, la mise en scène du solo chez Ben Webster constituent autant de sources à cet expressionnisme décomplexé. À la suite de Jacquet, d'autres Texans comme Arnett Cobb et Buddy Tate sauront faire fructifier l'héritage, ouvrant ainsi la voie au rhythm and blues de Willis Jackson, puis au rock'n'roll de Red Prysock. Souvent en tandem avec des organistes, les ténors velus ne dédaignent pas faire danser, à l'instar de King Curtis, quand ils ne louchent pas explicitement vers le chaudron de la soul music comme Stanley Turrentine. Aujourd'hui, cette lignée subsiste chez nombre d'acteurs, notamment dans la free music avec David Murray ou Archie Shepp, et elle continue à nourrir l'imaginaire des jeunes générations comme celle de James Carter. Pour évoquer cette famille des ténors velus, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois dans cette émission Jean-Michel Proust. Il connaît bien la maison puisqu'il a longtemps œuvré sur France Inter avant de voguer vers d'autres territoires radiophoniques. Et il est aussi saxophoniste et justement dans l'esprit des Texas ténors. Bonjour Jean-Michel Proust.
Bonjour Arnaud. Et si vous me le permettez, cher Arnaud, autant se débarrasser de cette blague d'emblée puisque l'on va parler des ténors velus. On va leur dire merci d'être velus. Voilà, ça c'est fait. Mais au travers de cette émission et l'évocation de ces musiciens, c'est sans doute une tentative de réhabilitation d'un musicien déterminant apparu dans les années 40 qui a influencé des générations de saxophonistes, 3 ou 4 générations après lui, encore aujourd'hui, et qui est souvent négligé par la presse spécialisée ou par les historiens. On parle bien sûr de Jean-Baptiste, il y tenait, Illinois Jacquet.
Alors on le prononce à la française parce qu'il est né en Louisiane, Jean-Baptiste Jacquet, dit Illinois Jacquet.
À Broussard.
Ouais. Mais il est né en Louisiane, mais en fait il a été élevé au Texas.
À Houston, comme d'autres que l'on va citer d'ailleurs. Et d'ailleurs on parlera carrément d'une école de ténors texans, les fameux Texas Tenors.
Alors qu'est-ce qu'il y a de spécifique au Texas? On joue le blues un peu différemment, de manière un peu plus virile. Qu'est-ce qui explique qu'on appelle ça les ténors velus?
Les effets, c'est l'utilisation pleine et entière de toutes les possibilités sur un saxophone ténor. On va s'en rendre compte tout au long de l'émission, que ce soit dans le caressant ou dans le rugissant. Ce sont de sacrés fauves, les ténors velus.
Il est né en octobre 1922, notre héros, Illinois Jacquet. Il a donc 19 ans, il n'a pas encore tout à fait 20 ans, le 26 mai 1942, lorsqu'il enregistre ce Flying Home. C'est une séance historique.
Historique, déterminante. Kenny Clarke était présent à la séance. Alors lui, il était juste assis sur une chaise. Et alors, j'ai retrouvé une interview de François Postif, qui a interviewé Kenny Clarke et qui raconte la séance. Et c'est important d'entendre Kenny Clarke raconter la séance parce que ça explique ce gamin de 19 ans, doué comme un cochon, qui jouait de l'alto jusqu'à maintenant. Ouais. Et c'est Lionel Hampton qui lui a demandé de se mettre au ténor, parce qu'il n'y avait pas besoin d'un altiste, il en avait déjà un. Donc il lui a demandé de se mettre au ténor. Il a engagé un autre jeune saxophoniste, Dexter Gordon. Ils étaient tous les deux à tenir les deux ténors. Au moment où ils enregistrent Flying Home, un morceau qui avait déjà été enregistré une première fois par Benny Goodman, il demande à Illinois Jacquet de prendre le chorus. Et là, je cite Kenny Clarke. J'étais présent à la session à Chicago et Lionel Hampton demanda à Illinois de prendre un solo. Jacquet répondit « Je n'en ai pas envie, demande plutôt à Dexter. » Ce dernier surpris répliqua « Écoute mon vieux, c'est à toi de le faire, moi c'est pas mon tour. » Tout en rigolant, Jacquet monta sur une chaise et commença à jouer de façon complètement tordue. Ce solo joué pour rire devint si fameux que Jacquet fut sacré le plus célèbre saxophoniste de son temps. Il voulait simplement faire une blague à Lionel en jouant dans un style qu'on avait mis au rancard depuis belle lurette. En fait, il avait repris le solo Alors Kenny Clarke dit de Lester Young, mais on va l'entendre tout
c'est
à l'heure.
C'est plutôt Herschel Evans.
D'Herschel Evans sur Texas Shuffle. Et ça devint un énorme succès. Jacquet a empoché des millions de dollars avec cette plaisanterie. Des milliers seraient sans doute plus corrects.
Flying Home le 26 mai 1942, l'orchestre du vibraphoniste Lionel Hampton avec le trompettiste Ernie Royal qu'on entend ici dans le suraigu et puis bien sûr le saxophoniste, le tout jeune Illinois Jacquet au ténor qui déroule ce magnifique solo. Une plaisanterie selon Kenny Clarke, mais une plaisanterie très structurée.
C'est le chorus de saxophone le plus copié de l'histoire. Tout le monde joue Flying Home et cela fait partie complètement du morceau. On joue en intégrale le chorus de Illinois Jacquet.
Un morceau bien mis en scène avec des modulations et une manière de théâtraliser pour faire monter la tension.
Alors, c'est exactement ça. C'est un petit théâtre. C'est une manière de raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin qui appartient vraiment au style de l'époque. Après, on partira sur des chorus, en développement des chorus, mais là, c'est un morceau théâtralisé. On raconte une histoire.
Alors, Illinois Jacquet, il a 19 ans. Il va très vite être repéré, notamment par le producteur Norman Granz.
En fait, il était copain de Nat King Cole. Après le succès de Flying Home, qui va vraiment le mettre sur orbite, Illinois Jacquet, Cab Calloway, pour remplacer Shoeberry, va engager Illinois Jacquet. D'ailleurs, on voit le jeune Illinois Jacquet dans Stormy Weather, avec Lena Horne dans le film. Et puis ensuite, il se retrouve à Los Angeles avec son copain Nat King Cole. Et là, un jeune producteur de films d'Hollywood, tout jeune, un jeune entrepreneur, monte une œuvre caritative au Philharmonic Hall de Los Angeles pour aider des Mexicains qui ont été injustement emprisonnés.
Et c'est la première fois qu'on voyait un plateau de jazz important sur une scène classique.
L'idée, c'est de faire une jam session comme on en entend en club ou le soir en privé après les heures, mais sur scène. Et là, Illinois Jacquet, ne sachant pas que c'est enregistré, c'est encore un gamin, il a 21 ans maintenant, et il s'amuse à faire des doigtés de clarinette sur son saxophone, parce qu'il s'aperçoit qu'on peut monter beaucoup plus au-dessus du registre normal, le saxophone s'arrêtant à un certain, lui, il va une octave, voire deux octaves au-dessus, il n'hésite pas non plus à mordre l'anche, de telle manière à faire des suraigus, et il rend fou le public. Et il oublie cette histoire. Bon voilà, il a eu beaucoup de succès, mais après il part en tournée, il part avec Count Basie, puis après il monte son orchestre, et deux ans après, il a un succès phénoménal à cause de ses suraigus, qui étaient une histoire de gamin, il se trouve piégé.
C'était donc le 2 juillet 1944 pour ce premier concert de ce qui va devenir Jazz at the Philharmonic. Et bien sûr, c'est Illinois Jacquet ici, aux côtés de Nat King Cole au piano, Les Paul à la guitare, Johnny Miller à la contrebasse et un certain Lee Young à la batterie. C'est le frère de Lester Young. Solo d'Illinois Jacquet sur ce blues dans le cadre du Jazz de Philharmonic le 2 juillet 1944 à Los Angeles. Des effets un petit peu outrés, mais qui déclenchent la faveur du public.
La faveur du public, c'est vrai. Mais alors, ça va être terrible. Autant ça participe totalement du succès populaire du jeune Illinois Jacquet, autant tout le monde va lui tomber dessus et il va avoir une image absolument déplorable auprès, je le disais, de la presse spécialisée et des amateurs de musique en particulier. Et pourtant, cette manière sauvage de jouer du saxophone va trouver des émules jusqu'à des David Murray ou James Carter d'aujourd'hui.
Mais il savait jouer autre chose, Illinois Jacquet. Il ne faisait pas seulement cette espèce de montée comme ça en puissance sur le blues, il savait jouer les ballades aussi, par exemple.
Alors, c'est la marque des fabriques de ces ténors velus, ces gros animaux, ces gros fauves, c'est qu'ils sont extrêmement caressants et qu'ils ont souvent parmi les plus belles sonorités de l'histoire du saxophone et qu'ils jouent de manière extrêmement bien. On va écouter là un morceau rendu célèbre par Schubéry dans l'orchestre de Cab Calloway que s'attribue Jean-Baptiste Illinois Jacquet. Il y a une sorte de théâtralisation du morceau qui dure juste 3 minutes. C'est splendide.
I don't stand a ghost of a chance. Magnifique interprétation de Ghost of a Chance par Illinois Jacquet. C'était
que
en
beau,
août 1945
beau.
Avec un certain Charles Mingus à la contrebasse,
absolument.
Jean-Michel
ouais,
Proust,
ouais.
Qui est encore tout jeune, bien sûr, en 1945. Alors, on ne va pas dresser le portrait d'Illinois Jacquet. Peut-être qu'on fera une émission un jour entièrement sur Illinois Jacquet. Mais d'où vient-il, Illinois Jacquet? Quels sont ses inspirateurs principaux? Il y a, j'imagine, Coleman Hawkins, par exemple, qui est le père du saxophone ténor, comme on dit.
Les fondamentaux, c'est forcément Herschel Evans, Coleman Hawkins, Lester Young, c'est forcément ses prédécesseurs. Je crois que celui qu'il citait en premier, Jacquet, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'interviewer à de nombreuses reprises, c'était Louis Armstrong.
Ouais.
Si on parle de ténor, il a écouté Coleman Hawkins, à qui il a piqué plein de choses. Évidemment, Coleman Hawkins a inventé le langage sur le saxophone ténor. Il venait d'une époque où on plantait des clous avec le saxophone ténor. Alors,
c'était pas un instrument soliste au départ, le ténor.
Pas du tout.
Beaucoup moins
c'est...
que la clarinette ou le cornet ou la trompette.
Ah oui, l'instrument roi du jazz à l'époque, c'était la trompette. Le ténor, on ne savait pas trop qu'en faire. Mm-hmm. Comme il y en avait beaucoup qui avaient débarqué aux États-Unis suite à l'envoi que la France avait fait d'instruments, ils ne savaient pas trop qu'en faire. Et souvent, le saxophone ténor était utilisé comme instrument d'accompagnement et plutôt dans les basses.
Et c'est vrai que Hawkins a contribué à libérer cet instrument. On va l'écouter ici, encore très jeune, en 1929, avec peut-être des effets qui vont nous amener au sujet du jour.
Alors là, c'est le papillon qui est encore en chrysalide et qui est en train de sortir de sa chrysalide. C'est magnifique.
Hello Lola. Coleman Hawkins, saxophone ténor en 1929 précisément, 10 ans avant sa célèbre interprétation de Body and Soul. C'est pas encore vraiment le swing ici, Jean-Michel Proust. Une articulation un petit peu différente.
Oui, oui, vous avez employé le terme de proto-swing.
Hors micro.
C'est tout à fait ça, oui, bien sûr. Il cherche un langage au saxophone ténor. Alors, attention, à l'époque, les trompettes envoyaient très très fort. Il n'y avait pas forcément de micro, il n'y avait pas de sono. Et il fallait avoir un son puissant, donc cela explique les attaques très prononcées. Après, dès qu'ils vont pouvoir s'illustrer en mettant moins de sons, Coleman Hawkins va inventer un langage très septante, très lié, très beau, très proche de la voix humaine, très proche du violoncelle. Et 10 ans après, c'est Body and Soul.
Et encore 5 ans plus tard, on ne va pas réécouter Body and Soul ici, on l'a déjà écouté plusieurs fois dans cette émission, il enregistre Voot avec Ellis Larkins au piano et on entend bien ce son septone. Vous nous ferez une petite démonstration tout à l'heure, Jean-Michel, on l'écoute ici, Coleman Hawkins en 1943. Extrait de Voot, enregistré en décembre 1943 par le saxophoniste Coleman Hawkins. On voit bien ce que Illinois Jacket doit à Coleman Hawkins ici.
Il y a déjà la sauvagerie qui était chez Hawkins et puis il y a ce tempérament legato. Là,
et puis quelques modes de jeu, quelques effets un petit peu particuliers. Alors il y a un autre saxophoniste, peut-être un petit peu moins connu, c'est Chuberry.
Chuberry qui avait une mise en place très particulière, il ne jouait pas sur le temps mais toujours à contre-temps, juste un petit peu avant le temps. Et cette mise en place est vraiment symptomatique des ténors du rock'n'roll, c'est-à-dire au lieu de faire le toum 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 toum, on est sur le temps, c'est la basse qui joue toum toum toum, lui il fait
toujours en l'air.
Et c'est systématiquement comme ça que mettait en place ses chorus Chuberry. Thank you.
Strawberry aux côtés de Lionel Hampton au vibraphone, Milton Tan à la contrebasse et Cozy Cole à la batterie. C'était en avril 1939. Alors la mise en place de Strawberry, le son de Coleman Hawkins et puis il y a aussi l'émulation extraordinaire qui existait dans les big bands des années 30 entre plusieurs saxophonistes ténors. Par exemple, chez Count Basie, il y avait Herschel Evans et Lester Young qui ne jouaient pas pareil.
Non, qui ne jouaient pas pareil. L'un jouait avec une vraie sauvagerie et un gros son et l'autre, au contraire, avait un son beaucoup plus fin et jouait complètement sur la légèreté et va définir une école qu'on va appeler par la suite la Cole Music.
Mais les deux ont pu inspirer Lynyrd Skynyrd, ce n'est pas seulement Herschel Evans.
Absolument. Oui, oui, Lynyrd Skynyrd tenait aussi bien de l'un que de l'autre. D'ailleurs, quand il jouait One O'Clock Jump, il citait systématiquement et Herschel Evans et Lester Young. Dans cet ordre-là, car l'enregistrement de 1937 de One O'Clock Jump, c'est Herschel Evans qu'on entend en premier des deux.
One O'Clock Jump, Herschel Evans, soliste, puis le tromboniste George Hunt, et ensuite le saxophoniste Lester Young. Deux modèles, deux références évidemment pour notre jeune Lynyrd Skynyrd. Alors il citait particulièrement un thème de Herschel Evans, c'était Texas Shuffle.
Il y a deux grilles de 32 mesures de chorus d'Lynyrd Skynyrd sur Flying Home, effectivement, il cite intégralement le pont d'Herschel Evans.
Le pont de Texas Shuffle enregistré par l'orchestre de Count Basie avec Herschel Evans ici en soliste ténor. Une référence aussi pour son gros son, pour un son très très large pour Jacquet.
Absolument. Et là, tous les éléments sont en place. On a le pont de Flying Home avec tout à l'heure Schubert, on a les...
Oui, le contretemps.
Tout est en place et il y a forcément la douceur, la tendresse et l'énorme son d'Herschel Evans.
Qu'on peut entendre par exemple dans son Blue and Sentimental avec Basie toujours. Sentimental Herschel Evans chez Count Basie, c'est très blue et très sentimental.
Ouais, c'est beau, c'est magnifique.
Et ça va devenir un standard de cette lignée des saxophonistes.
Alors effectivement, les saxophonistes disciples de Jacquet et donc d'Herschel Evans vont tous jouer Blue and Sentimental à un moment ou un autre.
On a cité Coleman Hawkins, on a cité Schuberry, on a cité Herschel Evans et aussi Lester Young. Il y en a un autre, c'est Ben Webster.
Ben Webster, forcément, copain de Lester Young, grande figure des années 30 qui va s'illustrer de manière génialissime avec Duke Ellington qui va faire un écrin pour les chorus extraordinaires. Et là, on parlait de théâtralisation. Et si on écoute le chorus de Ben Webster sur Cotton Tail, on est en pleine théâtralisation. Thank you.
Le célèbre solo de Ben Webster, saxophoniste ténor sur le Cottontail de Duke Ellington le 4 mai 1940. Ici, maintenant, tout est en place pour l'arrivée, si je puis dire, d'Illinois Jacquet en majesté avec tous ces ténors qui l'ont précédé et bien sûr dont il s'est inspiré. On aurait pu citer aussi Joe Thomas qui est soliste à l'époque dans l'orchestre de Jimmy Lunsford.
Oui, oui, qui a été une voix déterminante, aujourd'hui totalement oubliée. Et Joe Thomas s'est illustré dans les années 30 et dans les années 40 et 50 comme saxophoniste velu, comme saxophoniste du rock'n'roll, du rhythm and blues, peu importe d'ailleurs l'appellation.
Quand on lit les histoires du jazz, Jean-Michel Proust, la plupart du temps, entre 1942 et 1945, on parle d'une seule chose, c'est l'arrivée du bebop. Et pourtant, il y avait d'autres choses en même temps, la preuve.
Déterminante, importante, mais attention, c'est vrai qu'on parle du bebop a posteriori, parce qu'ils n'appelaient pas ça le bebop à l'époque. D'ailleurs, comment appeler les choses? On n'appelait même pas le jazz. Les disques, c'était des disques de gens de couleur pour gens de couleur, les fameux race records. Et il y avait un marché pour les noirs et il y avait un marché pour les blancs. C'était deux choses séparées qui vont se rencontrer 10 ans plus tard. Et on aura l'occasion d'en parler, mais effectivement, dans les années 40, la musique était là pour l'entertainment, pour la danse, pour l'amusement. Et il fallait effectivement être... peut-être un petit peu exhibitionniste, en tout cas être très spectaculaire pour avoir du succès.
Les bebopers venaient de ces grands orchestres. Charlie Parker a joué chez McShann, Dizzy Gillespie a joué chez Calloway. Son passage est resté
Dexter
célèbre.
Gordon était le co-saxophoniste avec Illinois Jacquet chez Lionel Hampton. Johnny Griffin avait pour parrain Arnett Cobb chez Lionel Hampton. Ils venaient tous de ces grands orchestres, oui, bien sûr. Charlie Parker lui-même venait du grand orchestre de Jay McShann.
Et puis, il pouvait jouer et partager la scène avec quelqu'un comme Charlie Ventura, qui avait d'ailleurs beaucoup de succès à l'époque.
Alors, effectivement, à la grande époque où aujourd'hui on dit « Ah voilà, le héros, c'était Charlie Parker », celui qui vendait vraiment beaucoup, c'était Charlie Ventura, avec un style proche de ses ténors hurleurs, de ses « honkers and screamers », il va bien falloir lâcher le mot un moment ou à un autre, mais parce qu'il avait une formule vocale assez bebop, mais c'est lui le gros vendeur, mais peut-être aussi parce qu'il était blanc.
En 1942, donc, il y a ce premier Flying Home enregistré par Illinois Jacquet chez Lionel Hampton. Il a tellement de succès, ce Flying Home, que quand un autre ténor arrive, Hampton va lui demander de réenregistrer ce Flying Home.
Oui, d'ailleurs, tous vont se déterminer et dire qui ils sont en jouant Flying Home, en reprenant le chorus d'Illinois Jacquet et ensuite en donnant leur propre version de Flying Home. Mais effectivement, Arnett Cobb, son baptême chez Lionel Hampton, ça a été de réenregistrer Flying Home, qui existe sous le nom donc aujourd'hui de Flying Home No. 2.
Arnett Cobb, ici à la place du soliste saxophone ténor aux côtés du trompettiste Cat Anderson et bien sûr de Lionel Hampton au vibraphone. C'était le 2 mars 1944, donc 2 ans après le premier Flying Home. Arnett Cobb, lui aussi, il est texan, il est né à Houston, au Texas.
Oui, il fut surnommé à cause de sa sauvagerie « The Wild Man from Texas », le sauvage du Texas.
c'est quelqu'un qui savait manier la transe, c'est-à-dire une manière de poser des questions et de faire la réponse, un petit peu comme finalement à l'église.
C'est une relation au corps et à l'esprit. C'est comment être ensemble par le rythme. C'est-à-dire que si on ne parle pas la même langue, il faut savoir que historiquement, les esclaves ont été triés ethniquement et familialement. Un, pour qu'ils ne puissent plus communiquer, ils n'avaient plus de mots en commun, et familialement, ils n'avaient même plus de sentiments, de relations. Et la seule manière d'être ensemble dans ce qu'on leur avait inculqué, qui étaient des cérémonies religieuses, c'était à travers la danse, à travers le rythme, on pouvait s'élever spirituellement, être ensemble, à travers la transe. Et s'il y a une spécificité du jazz de l'époque, c'est le swing. Et le swing, c'est être ensemble, c'est la transe, pour s'élever ensemble, spirituellement, pour être ensemble.
Go, en août 1947, le saxophoniste Arnett Cobb avec le tromboniste Booty Wood. On voyait bien ici ces échanges, un petit peu à la manière dont le preacher, l'officiant, procède avec l'assemblée dans les églises noires américaines. Jean-Michel Proust, vous êtes venu avec votre saxophone ici au studio 119 à Radio France pour le Matin des musiciens. Et puisqu'on a évoqué quelques modes de jeu, on a parlé de growl, on a parlé de honk, on a évoqué le scream, vous allez peut-être pouvoir nous donner quelques exemples sur l'instrument afin de montrer aux auditeurs tout ce que cela signifie. Alors on commence par quoi, Jean-Michel ?
Peut-être par une qualité de son qu'ont vraiment développé les saxophonistes des années 30, qui est la grosseur de son, la largeur. À l'époque, on ne cherchait pas à aller vite. À l'époque, ce qui était intéressant, c'est d'avoir une largeur de son et une capacité de sculpter le son de telle manière à donner un propos. On vient d'entendre avec Arnett Cobb, le rôle du soliste, c'est un peu le prêcheur. Et les autres, ceux qui font les riffs, entonnent un petit peu l'énergie de...
C'est l'assemblée qui répond.
C'est l'assemblée, absolument. Question, réponse. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir une voix qui porte. Il est d'usage, effectivement, de timbrer au saxophone, et c'est le son classique, donc on va écouter dans le registre médium du saxophone, ce son timbré. Mmh. Le subtone, c'est une manière de lâcher complètement l'embouchure. Et donc, ça donne... C'est aussi un effet où on rajoute beaucoup de souffle dans le jeu. Et c'est les fameuses conclusions de Ben Webster qui finit uniquement sur le souffle. D'ailleurs, Archie Shepp également utilise cet effet-là. C'est une manière de jouer. Les honkeurs, souvent, se retrouvent dans une situation où ils doivent crier. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Les gens viennent s'amuser, les gens viennent danser.
Vous dites honkeurs, ça veut dire qu'ils font du honk. C'est quoi le honk ?
Ils font du honk. C'est une manière de planter des clous. On a entendu tout à l'heure Coleman Hawkins dans les années 20, qui ne savait pas encore s'exprimer, ce fameux papillon qui n'était pas encore sorti de sa chrysalide. Et ça donnait souvent des effets où il faut s'appuyer sur le grave de l'instrument. Mais l'histoire de l'instrument saxophone ténor, qui était là pour accompagner et pour avoir le rôle de basse, en tout cas dans les fanfares, c'est sans doute l'origine du honk. Et ce que je viens de vous jouer, c'est un thème pour les ténors hurleurs. C'est sur un blues, c'est une sorte voilà, de transe que l'on cherche, où on va chercher la note la plus grave.
Vous dites « honker » et « screamers ». Ça veut dire quoi, « screamers » ?
Alors, « screamers », c'est une manière de crier. Et cette manière de crier, elle utilise plusieurs effets. D'abord, des harmoniques, c'est-à-dire que naturellement, l'instrument monte jusqu'au fa dièse. Qui est la note la plus aiguë. À partir de là, on peut, avec des doigtés factices, qui peuvent être issus, et c'est ce que Jacquet avait développé, de doigtés de clarinette, trouver une manière d'aller plus haut. Ça, ce sont des doigtés factices. Mais on peut aussi mordre l'anche, ce que faisait Jacquet formidablement. Mordre l'anche, ça permet de... de faire n'importe quoi, mais c'est assez efficace.
Autre mode de jeu, ce qu'on appelle le growl.
Alors le growl, c'est une manière de grogner dans son instrument, effectivement. Lorsque dans le médium, vous jouez un... Si vous growlez, ça fait...
Et puis bien sûr, on utilise le vibrato de manière très large.
Alors oui, évidemment, c'est un... Cher à Ben Webster.
Et rythmiquement, le swing est souvent appuyé sur la répétition d'une même note.
Effectivement, c'est une manière de sculpter la note, soit en la travaillant elle-même, soit en rajoutant des doigtés factices qui vont lui donner une autre justesse aussi, mais un autre poids.
Merci Jean-Michel Proust pour ces exemples donnés ici à l'instrument au studio 119. Évidemment, tous ces modes de jeu, tous ces effets vont concourir à de nouveaux styles de musique qui vont petit à petit apparaître, par exemple ce qu'on appelle le rhythm and blues tout simplement. Et au départ, c'est simplement une catégorie commerciale.
Oui, on parlait tout à l'heure de Race Records parce que c'était la catégorie des disques produite par des artistes noirs pour une population noire. Mais on était bien embarrassés aux États-Unis, qui étaient encore très ségrégationnistes à l'époque, avec cette appellation de Race Records. C'est en 1949 que, pour la revue Billboard, on a nommé ces disques Rhythm and Blues, qui étaient des disques destinés, bien sûr, à la population noire et destinés à la danse, essentiellement.
Et premier exemple de ce rhythm and blues naissant en 1949, l'orchestre de Gucci Williams, trompettiste qui a beaucoup joué avec Duke Ellington, qui accueille en son sein Willis Jackson, extrêmement jeune, pour ce Gattletail qui va lui donner son surnom. Ensuite, on l'appellera Willis Gattletail Jackson. We'll be right back.
Gathered Sail Part 1, parce qu'il y a une deuxième partie, Jean-Michel Proust, pour cet enregistrement de Willis Jackson.
Et le chorus était trop long. Oui.
Voilà. C'est l'orchestre de Cootie Williams, et donc Willis Jackson va devenir Willis Gathertail Jackson. C'était en 1949.
Et il fut recommandé par Arnett Cobb pour intégrer le label Apollo. Voilà. Ensuite, il va devenir une des grandes stars du label Prestige, avec lequel il va enregistrer 25 disques, avec pas mal d'organistes, dont Jack McDuff.
Et c'est à lui que l'on doit la première version enregistrée de ce très célèbre thème qui a été repris par tous les saxophonistes, y compris vous, je crois, Jean-Michel.
Bah, comme Flying Home, ça fait partie des incontournables du genre, Blue and Sentimental, et Harlem Nocturne, alors qui démarre sur un si bémol avec un son absolument énorme. Alors on va parler de vibrato, on va parler de souffle, on va parler de subtone, on va parler de climat, on va parler de théâtralisation. Tous les éléments sont en place et c'est une vraie musique de film. D'ailleurs, ça a servi pour la télévision et pour le cinéma. Mike Hammer, entre autres, Mickey Spillane.
Vous avez dit atmosphère. Harlem Nocturne, enregistré en juillet 1951 par Willis Gathertail Jackson à la tête de son orchestre. Évidemment, ici, on est au cœur de ce style Jean-Michel Proust, mais du côté de la ballade.
C'est le rhythm and blues. Alors le rhythm and blues, c'est une musique de danse, c'est une musique d'entertainment, souvent chantée, souvent proche de la musique que l'on peut entendre dans le gospel, où les claps des spectateurs sur le 2 et sur le 4 ont de l'importance. Et ça permet comme ça de faire monter la tension et de pouvoir s'exprimer. Et là, on va entendre un morceau assez typique de cette époque du rhythm and blues. On aurait pu choisir Louis Jordan. Il jouait aussi du ténor. Il jouait principalement de l'alto. Il chantait. Là, on a choisi l'orchestre de Tenny Brannon. On retrouve ses claps sur le 2 et 4. On retrouve cette partie chantée. On va retrouver les riffs qui ont de l'importance, qui sont ces petites petites phrases répétées qui vont participer de la montée en tension. Le baryton qui a beaucoup d'importance chez les honkers et screamers, car souvent, avant d'arriver au chorus de saxophone ténor, il y a le chorus de baryton. Et ce modèle a été emprunté à l'orchestre d'Illinois Jacquet dans les années 40. C'est Léo Parker qui jouait le baryton. Baryton qui plante des clous. Et puis après, arrive le ténor. Et là, c'est le prêcheur dans son église.
Et le ténor, c'est Ray Abrams.
Everybody get together.
Just drag him in the kitchen and we'll pour him down the sink.
Everybody get together. Come on, let's rock this house.
Octobre 1949, l'orchestre du pianiste Teddy Brannan avec le saxophoniste Ray Abrams. Ça s'appelle Everybody Get Together. Effectivement, ils sont bien ensemble, Jean-Michel Proust.
Oui, c'est une manière d'être ensemble pour passer du bon temps et donc s'élever spirituellement, rechercher la transe.
Des exemples de ce type, on aurait pu les multiplier. Il y en a des dizaines, des centaines. C'est vraiment une très grande vogue à l'époque.
Oui, il y a beaucoup plus que de 10 de bebop, puisqu'on est à exactement la même période. Bon, le bebop nécessite sans doute des qualités instrumentales et musicales nettement supérieures. Mais citons de très très beaux saxophonistes, Fred Jackson, Fats Noël, Al Singer, avec un succès qui date de 1948, dont il n'est pas très fier. Il écrit une autobiographie.
Ça s'appelait Cornbread. Oui.
Voilà, absolument. Mais citons le mari de Dinah Washington, Eddie Chambly, Jack McVie, Maurice Lane, Al Sears, qui jouait chez Duke Ellington, Joe Thomas, que l'on retrouve à cet endroit-là, Wild Bill Moore, Harold Land, avant qu'il ne soit chez...
Chez Max Roach, chez Clifford Brown.
Absolument, mais on pourrait presque citer John Coltrane.
Oui, qui a commencé.
Absolument.
Dans l'orbite du
Rhythm and Blues. Et Benny Golson également. Oui, oui, c'est très étonnant. Et puis, bien sûr, Dexter Gordon et Johnny Griffin.
Et puis, il y a Jimmy Forrest qui fait un véritable tube avec son Night Train. C'est une composition à lui.
Ce morceau est signé Jimmy oui. Forrest. Et tout le monde le crédite Jimmy Forrest. Duke Ellington, ça le faisait doucement rigoler.
Puisqu'il avait
intégré, pour remplacer Al Sears, justement, Jimmy Forrest pendant 6 mois. Et à l'époque, il jouait un morceau qui ressemble étrangement, qui s'appelle Happy Go Lucky Local. Et c'est exactement les 3 mêmes séquences que Night Train. Bien sûr, il en était fier, puisque tout le monde l'a joué après. Night Train, c'est devenu un des grands hits du rock'n'roll et du rhythm and blues. Mais voilà. Est-ce que c'est lui qui l'a écrit vraiment ?
L'emprunt à Duke Ellington, en tout cas, est patent.
1951, Night Train, le saxophoniste Jimmy Forrest, qui emprunte assez largement à la musique de Duke Ellington. Alors ici, on était vraiment dans ce qu'on appelle le rhythm and blues, et ses succès, il va maintenant apparaître ce qu'on va appeler le rock and roll, et là c'est plutôt pour les blancs.
Oui, voilà. Difficile de distinguer instrumentalement ce qu'est le rhythm and blues du rock'n'roll. C'est la même musique. Mais c'est vrai que ça a été une appellation où cette musique a enfin été possible pour les blancs. On a pu la partager entre noirs et blancs et donc c'est devenu le rock'n'roll.
Et musique pour la danse en tout cas.
Musique pour la danse, musique extrêmement efficace avec des instrumentistes hors pair dont Red Prysock est sans doute l'un des tout meilleurs.
Ça marche, dites-moi, Jean-Michel Proust, ce Red Prysock, Blow Your Horn.
Quelle énergie, quelle mise en place.
Oui, magnifique saxophoniste, ouais. Assez méconnu en tout cas du côté du jazz.
C'était le frère d'Arthur Prysock, ouais. Qui était un célèbre crooner. Ils ont d'ailleurs joué 20 ans ensemble. Il a eu un succès phénoménal et voilà, il s'est fait oublier ensuite.
Alors, puisque vous évoquez un chanteur, il y en a un autre, c'est Louis Prima qui lui va enregistrer avec Sam Butera. Le saxophoniste.
Ouais. Alors, Louis, trompettiste de la Nouvelle-Orléans, mais blanc et non pas noir comme l'autre. Il chantait, il jouait de la trompette. Il a eu une affaire au Sahara, qui est un club de Las Vegas. Et là, il a appelé son copain d'enfance, Sam Butera, qui est un formidable ténor. Il lui dit, écoute, viens avec l'orchestre qu'on avait quand on était gamin. Ils sont montés. Arrivés sur place, il lui dit, mais comment s'appelle l'orchestre? Ils n'avaient pas eu le temps. Il a dit, on s'appelle les Witnesses, ce qui veut dire les témoins. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sam Butera est un ténor exceptionnel et que la théâtralisation de chaque morceau de Louis Prima fait que quand Sam Butera arrive, le batteur qui jouait la plupart du temps au ballet passe aux baguettes et ça donne une énergie formidable, quel que soit le type de morceau, même quand c'est un morceau qui n'a rien à voir avec le swing, comme par exemple Buena Sera.
Buena sera, señorina, buena sera. It is time to say good night to Napoli. Though it's hard for us to whisper Buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight.
And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. But it is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
Hey, buonasera, signorina, kiss me good. While I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
C'était en 1956 la voix de Luis Prima, le saxophone de Sam Butera. Alors dans cette lignée des saxophonistes ténors du Texas, il y a aussi toute cette famille qui joue avec des organistes. Par exemple, Buddy Tate, qui était lui aussi du Texas, il était né à Sherman, dans le Texas. Lui, il s'est souvent présenté avec un organiste.
Ça va être une grande vogue dont le label Prestige va faire sa marque de fabrique que d'avoir des saxophonistes avec des organistes. Alors ça a été Milton Buckner et Wild Bill Davis, qui étaient deux pianistes du rhythm and blues de l'époque, qui jouaient avec le Louis Jordan ou ce genre de musiciens, qui vont passer à l'orgue et qui vont, avec l'orgue, pouvoir avoir la puissance du big band, mais aussi le velours d'une section de cordes, et vont pouvoir donc, avec des orchestres très très courts, juste un batteur, un orgue et un saxophone, donner toute la puissance d'un big band, toute la puissance d'un orchestre symphonique, et puis tout le velours, toute l'intimité d'un saxophoniste venu caresser les oreilles des spectateurs, et plutôt des spectatrices.
L'orgue de Milt Buckner ici aux côtés de Buddy Tate au ténor.
Thank you.
1967, le saxophoniste Buddy Tate avec Mill Buckner à l'orgue et Wallace Bishop à la batterie. Ça s'appelle When I'm Blue. Et précisément, cela a été enregistré à l'époque chez Black & Blue.
Ah oui, absolument. Les tournées de Black & Blue, Jean-Marie Monestier et Jean-Pierre Tamasian ont été deux animateurs de ce label qui ont effectivement repopularisé cette vogue qui date des années 50-60. Et bien, dans les années 70, en France, ces saxophonistes, ces ténors texans, Illinois Jacquet en tête, Arnett Cobb, Buddy Tate et d'autres vont revenir tourner et vont avoir de nouvelles heures de gloire jusqu'à la fin de leur vie.
Dans les années 60, dans la lignée du rock'n'roll, on voit arriver le boogaloo, le jerk, le twist, enfin toutes ces danses. Et dans cette optique, il y a un saxophoniste qu'il faut citer, c'est King Curtis.
Né Curtis Housley, tout à l'heure on décrivait ce jeu sur une note. Lui va travailler cette note, il va faire une sorte de cocotte, un peu comme un guitariste. Rythmiquement, il a une mise en place tel qu'il va vraiment être un musicien très important de la soul music, voire de la pop music, puisqu'on le trouve également dans la pop music. King Curtis, c'est vraiment quelqu'un qui joue purement pour la danse et qui est mort tragiquement, assassiné en bas de chez lui. Voilà, très bêtement, alors qu'à l'époque, John Lennon venait de l'embaucher pour jouer dans Imagine.
En 1962, King Curtis dans Soul Twist. King Curtis qui sera un petit peu plus tard le directeur musical d'Aretha Franklin. Ça chante cette musique.
Pour le label Atlantique. Alors là, on est sorti un peu du contexte purement jazz. On est passé sur une autre musique que l'on va appeler globalement la soul music et la musique de l'âme. Mais on est exactement dans la continuité des ténors texans et du rhythm and blues.
On a parlé essentiellement de saxophone ténor aujourd'hui. Il faudrait citer à l'alto Lou Donaldson qui signe son Alligator Boogaloo chez Blue Note en 1967.
Et en signant cet Alligator Boogaloo, il va donner naissance à un style qui va être emprunté par les DJ de hip-hop, qu'on va appeler le hip-hop, mais qui est le Boogaloo.
Et dans les années 70, pour revenir au saxophone ténor, il y a quelqu'un qui apparaît, c'est Stanley Turrentine. Alors lui, il est complètement dans ce style-là.
Il est complètement dans ce style-là et il se revendique disciple d'Illinois Jacquet qui a été son mentor. Thank you.
Sugar, le saxophoniste Stanley Turrentine, c'était en 1970. Jean-Michel Proust, quelque chose qu'on ne soupçonne pas forcément, c'est que les musiciens du free jazz, finalement, se retrouvent parfois dans cette esthétique, en tout cas le gros son, le maniement d'un certain nombre d'effets, l'attachement au blues aussi, ça se retrouve dès les années 60 chez ces musiciens.
Pouvoir exprimer pleinement un propos à partir de son instrument, et le free jazz, il n'a pas de tempo, n'a pas de mélodie. L'idée, c'est de se chercher ensemble, mais c'est de rechercher un collectif, une spiritualité, et on utilise tous les effets. Donc effectivement, très étonnamment, Amiette Bluyette le raconte très très bien.
Les saxophonistes de Chicago en particulier.
Les saxophonistes de Chicago, Von Freeman, est quelqu'un qui vénérait Willis Gathertail Jackson. Ils ont enregistré ensemble des choses absolument magnifiques. Archie Shepp vénère Ben Webster, il ne s'en cache pas, et il joue le blues très facilement.
Archie Shepp en 1996 dans ce California Blues où il est confronté au piano de John Hicks, à la basse de George Braz et à la batterie de Steve McRaven. Ici, finalement, assez proche de ce que l'on a entendu chez les Honkers and Screamers, Jean-Michel Proust.
C'est l'histoire du jazz qui coule à travers les veines d'Archie Shepp.
Est-ce que dans la jeune génération de saxophonistes, il y a des exemples encore de cette lignée ou est-ce que c'est un style qui est passé de mode ?
Pas du tout. Vous avez en France des Nicolas Montier, des Michel Pastre, des Nicolas Dary, des Olivier Defeys qui jouent magnifiquement bien cette musique-là et qui ont une vénération. Parce qu'à travers les ténors velus, c'est l'histoire du ténor, on vient bien de l'entendre, qui est un héritage de Coleman Hawkins, de Lester Young, d'Herschel Evans, de Schubery, de Joe Thomas. C'est l'histoire du ténor qui est racontée à travers cette musique-là.
Et aux États-Unis, lorsque Robert Altman fait un film sur le Kansas City des années 30, il va faire appel notamment à un certain James Carter qui, lui, se situe aussi dans cet héritage.
Mais Joshua Redman aussi se situe dans cet héritage. Ils sont assez nombreux, en fait, à vénérer. Les plus beaux sons du saxophone viennent de là. Maintenant, la musique a évolué, on évolue avec son temps, on a l'âge qu'on a et on joue une autre musique. Mais l'histoire est belle et mérite de ne pas être oubliée.
Vous-même, Jean-Michel Proust, vous contribuez un petit peu à cette histoire en la prolongeant, puisque vous aimez cette musique, et vous venez précisément d'enregistrer un album avec le guitariste Armel Amiot, et puis il y a aussi un organiste, alors là on est vraiment dans cette tradition, c'est Oscar Marconi, et l'excellent François Laudet à la batterie. Alors vous avez voulu reprendre des thèmes joués par Elena Jacquet, par ses textes ténors, ou est-ce que vous avez essayé d'écrire dans le style ?
Non, je n'ai pas du tout essayé d'écrire dans le style. Oui, j'ai fait un morceau à la manière de Red Prizog parce que je trouvais ça amusant. Mais en fait, le disque raconte un peu ce qu'on s'est raconté là. En une heure et demie, je suis parti de Flying Home, je suis parti de Blue and Sentimental, puis de Night Train, puis d'Harlem Nocturne. Et puis j'ai décliné l'histoire de ces saxophonistes et de ces belles années du ténor.
On se quitte avec un extrait de ce disque qui vient de paraître chez Big Blue Records. Jean-Michel Proust, vous co-signez ce disque avec Armel Amiot. Ça s'appelle Flying Home, tout simplement, l'album. Le titre, c'est une composition de l'organiste Wild Bill Davis, No Sweats. Ça veut dire que vous ne transpirez pas sur scène ?
Oui, là, c'est avec un gros clin d'œil.
Merci beaucoup Jean-Michel Proust d'être venu ce matin évoquer cette lignée des ténors velus, les Texas Tenors. Je rappelle votre actualité, c'est ce disque qui vient de paraître, Flying Home, chez Big Blue Records. Merci à Pascal Bénard et Marie Le Peintre pour la prise de son de cette émission que Dorothée Gold m'a aidé à préparer. Christine Amado l'a réalisée comme chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur francemusique.fr, le site de France Musique. Et je vous engage à vous abonner au podcast.